Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Passons maintenant à la parole de Dieu pour notre étude de ce soir dans 2 Pierre, chapitre 3. Nous examinons la dernière partie de cette épître, les versets 11 à 18, et l'intitulons « Vivre dans l'anticipation du retour de Christ ». Pierre a dévoilé la révélation divine dans cette grande épître, dans le but de protéger l'Église de l'assaut incessant des faux enseignants. Vous vous souviendrez qu'au chapitre 1, il nous a donné des instructions très importantes sur la façon de nous assurer que nous sommes dans une bonne relation avec Dieu. Ensuite, au chapitre 2, il a décrit les caractéristiques des faux enseignants. Puis au chapitre 3, il réfute leur erreur principale dans chaque assemblée qu'il connaît. De toute évidence, ces faux enseignants attaquaient la seconde venue de Christ. Ainsi, dans les 10 premiers versets du chapitre 3, Pierre a fait un travail magistral en réfutant ceux qui niaient la seconde venue de Jésus-Christ. Ainsi, le chapitre 1 a vraiment jeté des bases en parlant de notre propre relation avec le Dieu vivant et en s'en assurant quelle est-elle, qu'elle devrait être. Le chapitre 2 nous a donné un aperçu très clair de ce qu'il faut rechercher lorsque nous évaluons ceux qui se proposent comme de vrais enseignants, mais qui ne le sont pas. Le chapitre 3 traite ensuite et argumente pour la vérité de la seconde venue de Jésus-Christ. Alors que nous avons terminé ces 10 premiers versets, nous devons dire que Pierre a vraiment porté un coup mortel aux pourvoyeurs de mensonges sur le retour de Jésus-Christ. Il a démasqué les faux prophètes dans cette épître. Il a armé tous les chrétiens qui le lisent et le comprennent pour se protéger. Il a effacé leurs erreurs concernant le jugement et le retour du Christ. Maintenant, l'épître est presque terminée. Il a puissamment affirmé la vérité que Jésus reviendra. Nous devrions vraiment le remercier pour cela. Le monde devrait le remercier pour cela. Le monde non régénéré devrait même être reconnaissant que l'histoire est un but. Si Jésus ne vient pas, s'il n'y a pas de jugement, si Dieu ne veut pas intervenir, réfléchissez à ce que cela signifie. Cela signifie que les hommes n'ont absolument aucun espoir, aucun avenir, rien de rien. William Barclay a donné 3 superbes exemples tirés de tombes païennes de ce qui se passe lorsque les hommes rejettent la vision de l'histoire, qui dit qu'elle a un but, un point culminant, que Dieu interviendra par la venue du Christ et amènera l'histoire à sa fin. L'une de ces tombes exprime l'hédonisme. Elle dit « Je n'étais rien, je suis rien, donc toi, qui es encore vivant, mange, bois et réjouis-toi. » Quand il n'y a pas de but pour l'histoire, quand il n'y a pas de fin, quand il n'y a pas d'avenir, l'hédonisme prévaut dans certains cœurs. Et vous vivez comme vous voulez vivre. Après tout, rien ne vous retient. Puis il est dit sur l'une des tombes, « Autrefois, je n'avais pas d'existence. Maintenant, je n'en ai plus. Je n'en ai pas conscience. Cela ne me concerne pas. Cela indique que pour certains, il n'y a eu que de l'apathie. Je m'en fiche. Je n'ai pas eu d'existence. Je n'en ai pas maintenant. Je n'en aurai pas. Cela ne veut rien dire. Enfin, ne pas avoir ni but ni fin dans l'histoire conduit au désespoir. » Une autre tombe des temps anciens dit « Charidas, qu'y a-t-il en dessous ? L'obscurité profonde. Mais qu'en est-il des chemins vers le haut ? Tout n'est qu'un mensonge, alors nous sommes perdus. Une épitaphe pour une tombe. » Qu'il s'agisse d'hédonisme, ou d'apathie, ou de désespoir abject, sans que Dieu n'intervienne dans l'histoire humaine, sans avoir un but pour l'histoire, sans avoir un objectif pour l'histoire, sans avoir une fin pour l'histoire, sans avoir le redressement du mal. La vie n'a absolument aucun sens du tout. Donc, même ceux qui ne connaissent pas le Christ devraient être reconnaissants qu'il revienne pour corriger les choses. Mais au-delà de cela, Pierre ne se préoccupe pas autant des non-croyants que des chrétiens. Il est préoccupé par le fait qu'en tant que croyants, nous avons une compréhension appropriée et une réponse appropriée au retour de Jésus-Christ. Donc, avant de pouvoir clore cette épître, il a une dernière chose à dire. Un écrivain l'exprime ainsi, « Avec le peu de force restante à sa disposition, Il saisit sa plume plus fermement, et avec une main plus ferme, écrit sur le parchemin devant lui les derniers mots de sa tentative fidèle de fortifier ses frères. Le sable dans le sablier du temps glisse, et bientôt, sans voix ni plume, il pourra servir le sauveur parmi les fils des hommes. Des hommes sauvages se rapprochent de lui, et peut-être déjà la sentence d'exécution est-elle passée. Très bientôt peut-être que des mains brutales l'entraîneront vers l'arbre maudit où il sera crucifié. En envisageant les possibilités immédiates et en revoyant à nouveau les mots qu'il vient d'écrire, il se demande s'il n'est pas nécessaire d'insister davantage. Il décide que oui, il écrit les derniers mots. Les derniers mots commencent au verset 11. « Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, dit Pierre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété, arrêtez-vous à ce point. » Ayant juste indiqué très clairement que Jésus revient, il pose maintenant la question très importante. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Quel genre de personne devriez-vous être, si vous savez que Jésus revient? Si vous prévoyez ce qu'il appelle le jour de Dieu, ce qu'il appelle au verset 18 le jour de l'éternité, si vous anticipez l'état final, l'avenir glorieux, l'éternité que Dieu a prévue pour ceux qu'il aime, comment cela devrait-il avoir un impact sur votre vie maintenant? Si vous attendez avec impatience ce paradis final, cette gloire finale, cela ne devrait-il pas avoir des implications très fortes sur votre façon de vivre? Gardez cela à l'esprit. Il utilise l'expression ici « le jour de Dieu », comme nous le verrons. Il utilise l'expression du verset 18 à la toute fin, « le jour de l'éternité », tant le jour de Dieu au verset 12 que le jour de l'éternité au verset 18 se réfèrent à l'état éternel. Il dit que si vous aspirez à cet état éternel, ce nouveau ciel et cette nouvelle terre, cette glorieuse éternité, si vous en avez envie, cela devrait avoir un impact sur votre vie. Nous n'attendons pas le jour du Seigneur. Ce terme est utilisé au verset 10. C'est un terme de jugement, de destruction et de damnation. Nous n'attendons pas le jour du Seigneur. Nous n'attendons pas avec impatience que Dieu vienne dans un jugement final et accablant, furieux. Nous savons que c'est inévitable. C'est une chose douloureuse à penser, mais nous aspirons à ce qui vient après le jour du Seigneur, à savoir ce jour éternel de Dieu, l'état éternel de gloire, juste quand, comme Paul le dit dans 1 Corinthiens, tout se résout en Dieu, dans sa gloire ultime. Ainsi Pierre dit, « Regardez, si vous attendez la venue du grand jour de Dieu, l'état éternel, la gloire qui sera à vous en présence de Jésus-Christ quand il viendra et établira sa gloire éternelle, si vous attendez cela, verset 11, et vous anticipez au-delà de la destruction du jour du Seigneur. Quel genre de personne devriez-vous être? » Cette phrase, « Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre », vous ramène au verset 10 qui dit « En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments brasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. » Cela vous ramène au verset 7 « Les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Maintenant, nous savons que cela va arriver, puisque toutes ces choses doivent être détruites de cette manière qui inaugurera le jour de Dieu, l'état éternel, la gloire éternelle. Quelle sorte de personne devriez-vous être? Vous remarquerez maintenant qu'il n'y a pas de point d'interrogation au verset 11. Même si, à première vue, cela paraît comme une question. Ce n'est pas une question. C'est une exclamation. En fait, cette petite phrase « quel genre de personne » vient d'un terme grec très particulier, « potapos ». Il ne pose pas du tout de question. Cela marque une exclamation d'étonnement. Il n'attend pas de réponse. Cela pourrait être traduit de cette façon. « Comme vous devriez être, étonnamment, incroyablement excellent. » Quand il dit « quel genre de personne devriez-vous être ?» cela implique à quel niveau d'excellence devriez-vous vivre ? Point d'exclamation. Quand vous savez que vous allez voir au-delà du jour du Seigneur, le jour de Dieu et de la gloire éternelle, c'est un défi simple pour les chrétiens de conformer leur vie à la réalité de l'éternité. Si Jésus vient pour vous récompenser, si Jésus vient pour vous emmener pour être avec lui-même, si Jésus vient vous construire un nouveau ciel et une nouvelle terre, si Jésus vient pour vous délivrer du jugement et vous faire entrer dans le grand jour éternel de Dieu, si Jésus vient pour vous emmener dans le royaume de la justice éternelle, cela devrait avoir un impact sur votre vie. En d'autres termes, si vous avez déjà été fait pour cela, créé pour cela, racheté pour cela, sanctifié pour cela, Alors vous devriez commencer à vivre à la lumière de cela. C'est ce que dit Pierre. Bien-aimé, si c'est pour cela que nous avons été sauvés, comment nous devons vivre même maintenant pour être cohérents avec notre destin? En fait, dans 2 Corinthiens 5:9, Paul ajouterait sa voix à la position de Pierre. Il dit « C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait. Il arrive un moment où nous allons recevoir une récompense éternelle. Nous allons tous nous tenir devant ce jugement. Comme Paul le dit dans 1 Corinthiens, à ce moment où le Seigneur juge les secrets de notre cœur, chacun de nous recevra la louange de Dieu, et nous entrerons dans notre récompense éternelle. Quel genre de personnes devrions-nous être alors? Nous ne vivons pas pour ce monde. Nous sommes des étrangers. En tant que chrétiens, nous ne faisons pas partie de ce système mondial. Nous n'aimons pas le monde, ni les choses qui existent dans le monde. Ce n'est pas notre place. Nous sommes des pèlerins. Nous appartenons à un endroit paradisiaque. Nous cherchons une ville dont le constructeur et le créateur est Dieu, une ville non faite de mains, éternelle dans les cieux. Quel genre de personnes devrions-nous être? À quel niveau d'excellence devrions-nous vivre, dit-il? Ainsi la croyance, la confiance en la gloire du jour à venir de Dieu, dans lequel nous habiterons pour toujours, dans la justice avec lui, nous oblige à certaines implications. Pierre en énumère un certain nombre dont nous parlerons ce soir et le prochain soir du Seigneur. Tout d'abord, il y a une déclaration générale au verset 11. « Quelle ne doit pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété ? C'est l'arène dans laquelle il s'exprime. Quel que soit le genre de personne que vous êtes, c'est dans le domaine de la piété et de la sainteté qu'il parle. La sainte conduite se réfère à l'action. La piété fait référence à l'attitude. La sainte conduite fait référence à la façon dont je vis ma vie. La piété fait référence à l'esprit de révérence en moi, par lequel je vis ma vie. La conduite sainte fait référence à ce qui régit mon comportement, et la piété se réfère à ce qui régit mon cœur. Ainsi, il dit quel genre de personne devriez-vous être de cœur et de comportement, de motivation et d'action, d'attitude et de devoir. Les deux termes d'ailleurs sont au pluriel, intraduisibles en anglais. Mais en grec, ils prennent simplement le concept de sainteté et de piété, et le répandent partout dans la vie. C'est comme s'ils disaient quel genre de personne vous devriez être dans la sainteté et la piété, pour que cela se répande sur tout, chaque domaine de votre vie. C'est le dernier message de Pierre, c'est son dernier mot. Comme vous le savez, la tradition nous dit qu'il a été crucifié, et qu'il se sentait indigne d'être crucifié comme son Seigneur. Alors il a plaidé pour être crucifié à l'envers, ce qu'il était. Mais son dernier mot est celui-ci, « Nous nous dirigeons vers la gloire. Quel genre de personne devrions-nous être dans l'arène de la conduite et du cœur, de la sainteté, de la piété, en vue de cet avenir glorieux ?» C'est vraiment la question. Quelle est la réponse à cela? Quelle est la réponse? La réponse coule du verset 12 au verset 18. Qu'est-ce qui devrait nous caractériser? Permettez-moi de vous donner une petite liste, puis nous en parlerons plus en détail. L'attente, la pacification, la purification, l'évangélisation, la discrimination, la maturation et l'adoration. Maintenant, vous n'avez pas besoin de les noter, je veux juste vous en donner une petite idée. Ce sont les choses qui devraient nous marquer dans la sainteté et la piété. Franchement, cette implication de la seconde venue nous ramène au chapitre 1 de 1 Pierre. J'ai besoin de vous ramener là-bas. Et dans 1 Pierre, chapitre 1, au verset 13, Pierre dit « C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement. C'est encore l'extérieur. Soyez sobre. C'est l'intérieur. Alors, ayez une bonne conduite et une bonne attitude. » Et nous revoilà dans cette sainte conduite et cette piété intérieure. Il dit « Et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Il y a le même concept. Vivez à la lumière de cette grâce incroyable qui vous sera accordée lorsque Jésus sera pleinement révélé dans toute sa gloire et établira son royaume éternel. Vivez à la lumière de cela, car il aura un impact sur votre action et sur votre esprit ou votre cœur. Votre être intérieur. Puis il dit, comme des enfants obéissants. 1 Pierre 1:14. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous appelait est saint, Vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » Il appelle à nouveau à la sainteté et à la lumière de la vie pour l'éternité. La sainteté doit donc s'étendre à tous les domaines de la vie, à toutes les questions de la vie. Cela correspond à notre objectif, c'est la direction que nous devons prendre. Le verset 15 souligne ce point très important. « Mais, puisque celui qui vous appelait est saint, vous aussi soyez saints. Si nous sommes les enfants de Dieu, si nous nous dirigeons vers son royaume, nous devons nous comporter d'une manière compatible avec cette identification. Vous vous souvenez dans Matthieu 5, 48, au tout début du Nouveau Testament, lorsque le premier serment enregistré de Jésus est donné, il dit « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait ». L'apôtre Paul dit dans Colossiens « Mettez vos affections sur les choses d'en haut, et non sur les choses de la terre ». Paul a dit que votre citoyenneté n'est pas sur la terre, mais au ciel. En d'autres termes, nous devons vivre à la lumière de la gloire, et cela nous oblige à un niveau de sainteté et de piété qui est absolument omniprésent dans la vie. L'espoir nous rend saints. Maintenant, puisqu'un jour nous allons être avec lui, comment commencer ce processus de sainteté? Quels sont les éléments qui font de nous le genre de personnes que nous devrions être? Tout d'abord, appelons cela l'attente. Premièrement, l'attente. Remarquez le verset 12. « Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments brasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. Voici le concept d'attente. Puisque je me dirige vers la gloire éternelle, puisque je vais être un citoyen du royaume éternel de Dieu, puisque je vais être délivré du jour du Seigneur pour entrer dans le jour éternel de Dieu, je devrais vivre dans l'attente de cela. C'est assez évident. Regardons le verset 12 et voyons simplement les éléments constitutifs de cette formidable vérité. En cherchant et en accélérant la venue du jour de Dieu, c'est comme si Pierre disait que vous ne devriez certainement pas en avoir peur. Vous ne devriez certainement pas vous en inquiéter. Vous devriez être comme ceux dont Paul parle, et avec lesquels il s'identifie dans 2 Timothée 4:8, quand il parle de ceux qui aiment l'apparition du Christ. Vous devriez être comme Jean qui a dit « Amen, viens Seigneur Jésus », comme Paul qui a dit « C'est bien d'être ici, mais mieux vaut partir et être là ». Vous devriez avoir un désir ardent dans votre cœur pour la venue du jour de Dieu. Ce verbe « chercher » donne l'idée d'espérer, l'idée d'attendre avec vigilance, alerte au retour du Seigneur. Ce mot « hâte » ajoute l'idée d'un désir ardent. Non seulement vous veillez, vous attendez, mais vous désirez ardemment que cela se produise. Vous ne l'attendez pas seulement. Vous l'attendez, et vous le voulez vraiment, et vous le voulez bientôt. C'est l'idée. Au lieu de vivre dans la crainte de l'avenir, dans la crainte du jugement, et dans la crainte du jour du Seigneur, vous vivez dans un saint empressement. Vous vivez avec ce mot, 1 Corinthiens 16, 22, Maranatha sur vos lèvres. Viens, Seigneur, vivant, constamment dans l'attente désireuse. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie que je vais être confronté à des problèmes dans ma vie. Cela signifie que je vais faire face à certaines choses dans ma vie pour pouvoir dire que je veux qu'il vienne, parce que je sais que quand il viendra, je n'aurai pas honte de sa venue. 1 Jean 2 parle de ne pas avoir honte quand Jésus vient. Chapitre 2, verset 28. Lorsqu'il paraîtra, que nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus, éloignés de lui. Si ma vie est bonne, je n'aurai pas honte. Je vais être impatient, je vais être anxieux. Et je vais être désireux que Jésus vienne. Cette petite phrase, la venue, encore une fois ce merveilleux mot, parousia, cela signifie littéralement la présence. Il pouvait lire, rechercher et hâter la présence du jour de Dieu. Si vous prenez ce mot parousia et que vous le déplacez simplement à travers le Nouveau Testament, partout où vous le trouvez, cela met l'accent sur une présence corporelle, personnelle de Jésus-Christ. Ce n'est pas la présence d'un événement, ce n'est pas la présence d'un lieu. C'est la présence d'une personne. Ainsi nous attendons la présence de Jésus-Christ, qui sera la gloire du jour éternel de Dieu, qui sera le joyau des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Si notre vie est juste, nous n'avons aucune honte parce que nous n'avons pas de péché non avoué et répété, alors nous pouvons anticiper avec impatience la venue de Jésus-Christ. Nous aspirons à son retour. Comme je l'ai mentionné plus tôt, je pense que cette petite phrase, « jour de Dieu », ne fait pas référence au jour du Seigneur. Certains assimilent les deux, mais je pense que cela fait référence à ce jour éternel qui est également mentionné, comme je l'ai dit, au verset 18. L'état éternel, où Dieu est tout en tous. Nous ne sommes pas impatients en attendant le jour du Seigneur. Nous sommes impatients pour le jour de Dieu. Donc, il dit que si vous le cherchez, si vous êtes vigilant, si vous cherchez à hâter l'arrivée de ce jour, c'est que vous l'anticipez avec impatience. Vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront, et ainsi de suite. C'est un point très intéressant. Suivez-le. Si vous cherchez et hâtez le jour de Dieu, afin de le faire venir, quelque chose d'autre doit se produire. À cause du jour de Dieu, Dieu doit détruire l'univers actuel. Nous pouvons donc comprendre que ce qu'il veut dire, c'est qu'il faut faire place au jour de Dieu. Il doit y avoir le jour du Seigneur. S'il doit y avoir un nouveau jour, un nouveau royaume, un nouveau ciel et une nouvelle terre, s'il doit y avoir un nouvel univers dans lequel la justice habite, alors le Seigneur va devoir détruire l'ancien, la destruction de tout l'univers maudit par le péché, tout comme nous l'avons appris au verset 5 et 6, que le Seigneur a détruit cet univers une fois par l'eau, cette partie terrestre, noyant toutes les personnes qui se trouvaient dans les eaux, en dessous, et les eaux, au-dessus de la terre. Donc, à l'avenir, il détruira par le feu. Ainsi, Pierre dit que quand vient le temps du jour de Dieu, le jour du Seigneur doit venir en premier. Veuillez noter ceci. Le jour du Seigneur n'est le résultat d'un processus naturel. Ce n'est pas le résultat d'une catastrophe naturelle. Ce n'est pas le fait que certains pays utilisent des armes nucléaires. Ce n'est pas le résultat d'un homme ou d'un événement naturel ou d'un cataclysme naturel. C'est un jugement divin par le Dieu Tout-Puissant, par la puissance du Christ à qui il a confié le jugement. C'est l'œuvre de Dieu. J'entends des gens essayer de l'expliquer comme une guerre nucléaire ou comme un scientifique qui appuie sur le mauvais bouton et envoie une réaction en chaîne, qui détruit tous les atomes. Cela ne vient pas de l'homme, c'est une action de Dieu. Puis juste pour souligner l'horreur, Pierre répète ce qu'il a dit au verset 10. Regardez ensuite le verset 12 à nouveau. À cause de quoi les cieux seront détruits par la combustion et les éléments fondront avec une chaleur intense. C'est presque identique au verset 10 et très proche du verset 7 que j'ai lu il y a un instant. Maintenant, il y a quelques aperçus à ce sujet. Gardez à l'esprit que le jour du Seigneur vient en deux temps. Cela vient quand Jésus revient dans la seconde venue, à la fin du temps de la tribulation. Puis il établit son royaume de 1000 ans. À la fin de ces 1000 ans, vient la deuxième phase du jour du Seigneur. Dieu voit cela comme un jour, parce que 1000 ans avec lui, c'est comme un jour, comme il est dit au verset 8. Mais la première fois que Jésus vient, au début des 1000 ans, il y a quelques aperçus de ce qui va se passer à la fin des 1000 ans, lorsque le plein feu de l'univers aura lieu. Laissez-moi vous montrer les aperçus qui se sont produits 1000 ans plus tôt. Regardez l'Apocalypse. Ce sera un petit avant-goût de ce que ça va être. Dans Apocalypse, chapitre 8, verset 7, les trompettes ont sonné pour prononcer le jugement à la fin du temps de tribulation. Comme la première trompette retentit, la grêle et le feu vinrent, mêlés de sang, et ils furent jetés sur la terre. Un tiers de la terre a été brûlé, un tiers des arbres a été brûlé, et toute l'herbe verte a été brûlée. Un deuxième ange sonna, et quelque chose comme une grande montagne brûlante de feu fut jetée dans la mer. Un tiers de la mer devint du sang, un tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient la vie moururent, et un tiers des navires ont été détruits. Il est inimaginable de penser qu'une énorme boule de feu sortant du ciel pourrait frapper les mers, détruire un tiers des mers sans créer un raz de marée, qui serait absolument au-delà de l'imagination. Une boule de feu enflammée plongeant dans la mer, à ajouter aux autres feux qui descendent sur la terre et qui brûlent un tiers de tout sur le globe. Ce n'est qu'un aperçu du feu dévastateur de l'univers qui consommera tout à la fin des 1000 ans, lorsque le Seigneur établira le nouveau ciel et la nouvelle terre. Chapitre 9 de l'Apocalypse, un autre aperçu est à venir. Chapitre 9, verset 17. Il arrive une grande armée, au son de la trompette du sixième ange, et cette armée vient avec les chevaux et ceux qui étaient assis dessus. Il dit que les chevaux dans la vision et ceux qui les montaient avaient des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lion, et de leur bouche ils sortaient du feu, de la fumée et du soufre, qui est comme de la lave. C'est une sorte de description graphique et figurative d'une grande force ardente. Peut-être que Dieu ouvre simplement la terre et détache les tripes de sa capacité volcanique, qui, comme vous le savez maintenant, atteint plus de 5500 degrés Celsius et consomme un tiers du monde. Ce n'est qu'un aperçu. C'est juste un petit avant-goût de ce qui va arriver à la fin du royaume millénaire. Chapitre 16 de l'Apocalypse et verset 8. Et ici, vous avez les jugements finaux. Vous lisez d'abord les jugements du sceau, puis vous lisez les jugements de la trompette qui viennent plus rapidement. Ensuite, vous lisez les jugements de la coupe, qui sont les plus rapides de tous, se produisant subitement à la fin de la tribulation, juste avant que le Seigneur Jésus revienne. Il est dit au verset 8 du chapitre 16. Le quatrième versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ses fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Je ne sais pas ce que fait le Seigneur. C'est presque comme s'il demandait à l'ange de verser de l'essence sur le soleil, et cela devient plus chaud que jamais auparavant. Et cela commence à incinérer littéralement les personnes dans le monde. Chapitre 18. Un autre aperçu de ce qui est à venir. Nous obtenons ici la description de la dissolution du monde de l'homme, de son entreprise, de son économie, de Babylone la Grande. Verset 8. En un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Puis enfin, le chapitre 20 au verset 9. Ici, nous trouvons à la fin des 1000 ans, Satan libéré de prison. Il sort pour tromper les gens qui ont vécu ces 1000 ans et ont rejeté Christ. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints. Et tous les rebelles de l'extérieur du royaume vont essayer d'attaquer la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. C'est le point de départ de la dévastation finale du feu qui consume tout l'univers. C'est ainsi que cela va se terminer. Le Seigneur nous a donné de nombreux avertissements. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament, des aperçus très descriptifs qui arrivent à la fin de la période de 7 ans de tribulation, juste avant le retour de Jésus, pour établir son royaume de 1000 ans. Puis un avant-goût de ce feu furieux va venir sur cette grande armée rebelle qui va combattre Jésus-Christ à la fin de son royaume terrestre. Puis vient l'Holocauste, où tout l'univers est consommé, et les éléments fondent avec une chaleur intense, jusqu'aux éléments. Que voulez-vous dire par éléments? C'est encore ce mot, stoicheia. Cela signifie les composants microscopiques qui constituent les éléments constitutifs de la matière. Jusqu'à l'essence même de la matière, tout sera consommé. 1 Jean 2:17. Et le monde passe. L'univers, la terre et le monde signifient le système social, économique, culturel, religieux, quel qu'il soit, tout est consommé. Lorsque le jour du Seigneur arrive, la destruction finale a eu lieu. La journée des hommes est terminée. C'est pourquoi c'est le jour de Dieu. Ce n'est plus le jour des hommes. Sa corruption de l'univers et celle des anges déchus est finalement jugée. Ainsi, au verset 13, Pierre dit « Mais nous attendons, selon sa promesse, pas le jour du Seigneur, nous attendons le jour de Dieu, le jour de l'éternité, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. » Selon sa promesse singulière, une promesse qui a été répétée à maintes reprises, le Seigneur va apporter un nouveau ciel et une nouvelle terre, un paradis retrouvé après l'Holocauste du feu. Nous le recherchons, ce nouveau paradis, cette nouvelle terre. C'est vraiment une seule idée. Il n'y a pas 2 articles définis ici. Il n'y a pas d'article du tout. Nous recherchons un nouveau ciel, nouvelle terre, une seule unité. Telle est la promesse de Dieu. Mais selon sa promesse, qui ne peut pas mentir, qui dit toujours la vérité, nous recherchons un nouveau monde, un nouvel univers. Cette promesse remonte à loin. Cette promesse remonte au psaume. Dans le psaume 102, par exemple, au verset 25, « Tu as anciennement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras. Ils s'useront tous comme un vêtement. Tu les changeras comme un habit, et ils seront changés, les nouveaux cieux et la nouvelle terre. » Le prophète Ésaïe l'a vu. Encore une fois, Ésaïe 65, 17. « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. » Et écoutez ceci, on ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Écoutez, l'une des grandes réalités de l'éternité est que vous n'aurez plus aucun souvenir du temps. Vous serez consumés dans le nouveau ciel et la nouvelle terre et les choses anciennes ne seront pas rappelées ou ne vous viendront pas à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse, dit-il, à cause de ce que je vais créer. Puis, dans Ésaïe 66, au verset 22, il le répète. « Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. Oui, dit Pierre, selon sa promesse, il y a un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le mot nouveau est le mot kainos. Cela signifie nouveau en qualité, pas nouveau en chronologie, non seulement neuf dans l'ordre, mais nouveau en qualité. C'est différent, pas comme tout ce que nous avons déjà connu. Comment résume-t-il le caractère de sa nouveauté ? Magnifiquement, verset 13, où la justice habitera. Le mot habite ne le fait tout simplement pas. Il y a un mot grec, oikeo, qui signifie être chez soi. Ce mot est katoikeo. Chaque fois que, comme je vous l'ai dit, vous ajoutez une préposition à un verbe en langue grecque, vous en intensifiez le sens. Katoikeo signifie s'installer et être chez soi, pour occuper une résidence permanente et confortable. Ainsi, il dit que le nouveau monde est un monde dans lequel la justice n'est plus un étranger, un monde dans lequel la justice n'est plus un vagabond, un monde qui est le foyer de la justice, une existence permanente et parfaite. C'est le monde que nous attendons avec impatience. C'est le monde qui nous a été promis en Jésus-Christ. C'est là que va notre histoire. C'est ce qui est préparé pour ceux qui l'aiment. Dans Ésaïe, chapitre 60, verset 19, Ésaïe écrit à propos de ce monde. Écoutez ce qu'il dit. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur. N'est-ce pas quelque chose? Nous n'aurons pas le soleil pour la lumière et la lune pour la lumière, mais l'Éternel sera la lumière à toujours. Quelle déclaration! Ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus, et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours, et les jours de ton deuil seront passés. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. C'est une excellente déclaration. Tout ton peuple sera juste. Regardez le chapitre 21 d'Apocalypse. Voici une description du Nouveau Testament. Apocalypse 21:1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Pas de séparation. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. C'est là que la justice est à la maison, chez soi, parce que c'est là que Dieu est à la maison. Car Dieu est la lumière éternelle. » Le verset 4 dit « Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône, le Seigneur, dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles, toutes choses nouvelles. » Et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. » À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, et il sera mon fils. Si vous voulez être dans ce royaume, vous devez vaincre. Vous dites, comment puis-je vaincre? Jean l'a dit. Qu'est-ce qui va vaincre? Notre foi. Notre foi en qui? La foi en Jésus-Christ. Verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs. Leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Allez au verset 23, et ici encore ce que nous lisons dans Ésaïe, la ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre, c'est-à-dire ceux qui ont été rachetés, y apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront point le jour, car là, il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Toutes les nations seront là, se prélassant dans cette gloire. Mais le verset 27, il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. C'est le lieu où la droiture s'installe, et elle est finalement chez elle. C'est le lieu où la justice n'est pas étrangère. C'est le lieu où Dieu habite. Quel monde ! Notre réponse devrait être celle de Jean. Allez au chapitre 22. Apocalypse, verset 8. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait, pour l'adorer. Son cœur avait raison. Il est juste tombé au mauvais endroit. Il est tombé aux pieds d'un ange qui a dit « Lève-toi ». Alors Dieu, c'est lui qui a fait cela. Jusqu'au verset 20. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt ». Et quelle est la réponse de Jean ? Amen. Quoi ? Viens, Seigneur Jésus. Vous voyez, si nous savons que nous nous dirigeons vers le nouveau ciel et la nouvelle terre, si nous savons que nous serons délivrés du jour du Seigneur, phase 1 et phase 2, si nous savons que nous allons échapper au jugement parce que nous avons été ordonnés à la vie éternelle, à la gloire éternelle et à la justice éternelle, et que notre demeure à jamais sera au jour éternel de Dieu, où la justice est tout ce qu'il y a, si tel est le plan de Dieu pour nous, et c'est la raison pour laquelle il nous a rachetés, quel genre de personnes devrions-nous être ? Certainement pas comme les personnes qui vont passer une éternité dans la fournaise. Tout d'abord, nous devons être des personnes caractérisées par l'attente. Nous devons vivre dans l'attente. La séquence des événements. Le Seigneur Jésus vient à l'enlèvement de son Église. Puis vient la première phase du jour du Seigneur, l'holocauste du jugement. Puis nous revenons avec lui pour régner avec lui pendant ces 1000 ans dans nos corps glorifiés. À la fin de ce temps, il détruit l'univers, préservant les justes déjà rendus et rachetés à travers cette destruction, et il nous inaugure finalement, à la fin des 1000 ans, dans le jour de Dieu. C'est pour cela que nous sommes faits, et c'est ce à quoi nous devons nous attendre. Nous devons vivre dans l'attente. Le meilleur est à venir. Il y a tant de choses riches dans ce passage. Prions. Merci, Père, encore une fois pour ce merveilleux rappel de notre avenir. Merci d'avoir écrit nos noms dans le livre de vie de l'agneau. Merci d'avoir amené nos cœurs à se tourner dans la foi vers Jésus-Christ et à être sauvés. Merci parce que nous nous dirigeons vers le paradis. Merci parce que nous ne serons jamais condamnés, mais nous connaîtrons la gloire éternelle. Non pas parce que nous en sommes dignes, non pas parce que nous avons fait quelque chose pour le mériter, mais parce que tu nous as aimés et que tu as donné ta vie pour nous, parce que nous avons simplement reçu l'offre du salut, offerte gratuitement. Père, je prie pour quiconque ici se dirige vers les terreurs du jugement, afin que ce soir, tu tournes leur cœur, et puissent-ils venir à Jésus-Christ, non seulement pour recevoir la bénédiction, la joie et la paix dans cette vie, mais la gloire éternelle. Dieu, nous te prions d'en sauver beaucoup ce soir, et de les tourner vers toi pour qu'ils deviennent fils de Dieu, qui hériteront du nouveau ciel et de la nouvelle terre. Pour ceux qui sont chrétiens, Seigneur, puissions-nous vivre dans l'attente, et vivre avec empressement, en attendant la venue du Sauveur, soucieux et désireux qu'il vienne, afin que nous puissions entrer dans ce à quoi nous avons été destinés, la possibilité d'être comme Jésus-Christ, pour demeurer dans sa justice éternelle, en ta présence, à cause de Christ. Amen.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'études de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.